Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui Julien Kostreva, bonjour.
Bonjour.
Etc. La Grande Coco, plein de projets, plein de choses extrêmement importantes et extrêmement intéressantes. J'ai eu l'occasion d'aller à La Grande Coco et j'incite tous les auditeurs à se déplacer dans le 20e. Il y a en plus, on mange divinement bien, c'est très sympathique. Et puis, c'est un peu un incubateur de beaux projets, on peut dire ça comme ça ?
On peut dire ça comme ça.
Hein, vraiment. Alors moi, je veux bien qu'on comprenne un petit peu mieux, au-delà de l'urbanisme transitoire, au-delà de nouveaux modèles qu'on essaye de mettre en place pour dynamiser les projets urbains et dynamiser les villes. Le paysage a changé quand même depuis quoi ? Une dizaine d'années où on parle d'urbanisme transitoire ?
Oui, c'est à peu près le milieu des années 2010, je dirais, oui.
Et alors pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à tirer ce fil et à se dire que c'était quand même extrêmement intéressant de ne pas laisser ces lieux en déshérence ?
Alors je dirais qu'il y a eu des mouvements à la fin du XXe siècle, notamment aux États-Unis, avec les mouvements de l'urbanisme tactique. Et je pense que dans les années 2010, certains opérateurs immobiliers, comme la SNCF Immobilier par exemple, s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité de faire vivre des sites et de faire des économies aussi dans la gestion des sites, d'économiser le gardiennage, d'économiser les clôtures, en faisant vivre les sites. Et donc ils se sont appropriés des outils de l'urbanisme tactique et l'urbanisme transitoire est devenu un vrai outil au service des acteurs de l'immobilier.
Oui, mais enfin, pendant très longtemps, quand ce genre d'exemples ont été faits, parce que je dirais pas pourquoi, mais on va dire que de fin des années 90, j'ai essayé de le proposer à la ville de Paris, on m'a dit non, mais il y avait des squatteurs qui vont venir, ils vont pas vouloir partir, etc. Qu'est-ce qui a fait que justement SNCF Immobilier ou d'autres acteurs ont eu le sentiment que c'était plus bénéfique que problème avec d'éventuels squatteurs, hein ?
Je pense que comme souvent, c'est une question de personnes. Il y a des personnes qui ont été des passeurs, comme Benoît Quignon à la SNCF Immobilier, qui savaient à la fois parler le langage des collectifs, le langage des associations et le langage sans doute des présidents, présidentes de la SNCF et qui ont su faire le pont entre ces mondes qui ne se parlaient pas forcément très bien avant. Et on peut citer d'autres acteurs comme Plateau Urbain qui ont réussi aussi à faire le lien entre des mondes qui se côtoyaient peu avant.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrive pas du tout à imaginer un projet urbain sans urbanisme transitoire. Qu'est-ce qui fait que ce modèle-là peut perdurer encore un certain nombre d'années ? Parce qu'au fond, on a toujours un problème sur les problèmes d'aménagement où c'est des opérations qui durent extrêmement longtemps avec des élus qui parfois changent. Comment fait-on pour garder cette vivacité du territoire, hein ?
Ben, je pense qu'il y aura toujours besoin, il y aura toujours des questions de temporalité. Le temps de l'aménageur, c'est pas le temps du promoteur, qui est pas le temps de l'habitant, qui est pas le temps du politique. Du coup, il y aura toujours des interstices temporels pour de tels projets. Mais je pense que par contre, c'est vraiment intéressant qu'il y ait aussi des financements du public pour développer d'autres modèles.
Alors justement, comment on trouve les pépettes, hein ?
Ah bah c'est du cas par cas, mais oui, c'est du cas
non,
par
non,
cas.
Non, mais donc à peu près, quand même, savoir à qui vous vous adressez, comment vous montez un projet. Imaginons que quelqu'un qui n'a pas votre relationnel à la Grande Coco, etc., décide, de venir vous voir en disant j'aimerais bien faire telle opération pendant X mois, etc. Est-ce que vous pouvez venir m'accueillir, troupe de théâtre, ambulant, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que... Dans quel cadre on rentre ? Comment on fait ? On monte un projet ? Comment on trouve les financements ?
Déjà, ce que j'ai dit au début, c'est que faire de l'urbanisme transitoire, c'est éventuellement enclencher des dépenses, mais c'est aussi faire des économies. Donc, il faut intégrer ça dans le bilan des actions transitoires. Après, il y a des financements publics, il y a des financements de la région Île-de-France, il y a différents appels à projets. Il faut chercher et c'est vraiment du cas par cas.
D'accord. Bon, on est un peu dans le fer de l'opportunisme. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'aménagement urbain ou de fer qui sont mis en place aujourd'hui ?
Oui, ben nous, en fait, ce qui nous intéresse beaucoup, presque au-delà de l'urbanisme transitoire, c'est vraiment la question de faire un urbanisme qui parte des usages. Donc, ce qui nous intéresse chez A, etc., donc c'est de prendre le temps de faire des résidences longues, d'observer les usages des espaces publics, d'observer les usages des bâtiments, pour faire un programme qui soit pas seulement normatif, mais qui parte vraiment du souhait des usagers et des usagères. Et c'est vraiment ça qui nous anime, faire des diagnostics approfondis d'usage, faire des résidences, observer ce qui se passe dans l'espace public, est-ce qu'il y a plus d'hommes, de femmes, pourquoi quoi, qu'est-ce que font les gens dans l'espace public pour utiliser cette matière comme un point de départ du projet urbain.
Alors, mais ça, c'est un projet urbain dans un urbanisme qui est déjà constitué. Quand on est en milieu de la pampa, qu'on est en train de créer une ZAC, on n'a pas de retour d'expérience.
Oui, nous on essaye de pas faire d'urbanisme. D'accord. Au milieu de la pampa, parce qu'on pense que l'avenir c'est de faire la ville sur la ville et que les projections démographiques de la France et tout ça, la vacance qui existe font qu'il faut vraiment prioriser les projets sur l'existant. En tout cas, nous c'est ce qu'on se dit chez etc. On donne la priorité aux projets sur l'existant.
Alors, moi je veux bien savoir comment ça se passe avec les élus, comment se passe justement la réaction des élus ou des SEM ou des aménageurs avec lesquels vous travaillez pour pouvoir mettre en place et considérer que c'est vraiment important de faire ces études pointues et ces diagnostics. Hein.
Alors c'est vraiment du cas par cas, mais souvent il y a un peu une défiance au début des élus qui disent mais les personnes du territoire, on les connaît, il n'y a pas besoin de faire de diagnostic. Et souvent en fait les élus, après il y a quelque chose qui se passe et qui se déverrouille, où ils et elles sont très contents d'entendre directement la voix des habitantes et des habitants. Donc très souvent en fait au début on nous dit que le diagnostic d'usage c'est pas important, et en fait une fois qu'on présente les choses, ça déverrouille beaucoup de choses et les élus sont vraiment ravis de voir les choses du point de vue des usagers et usagères qui sont aussi leurs
habitants. Donc il y a une restitution, on va dire, des interviews.
Oui.
Comment ça se passe? C'est fait lors d'une réunion publique ou dans le bureau du maire en catimini avec une compréhension qui est un peu biaisée parfois. Donc comment les habitants savent ce qui est dit d'eux?
C'est vraiment du cas par cas, mais vous pointez un sujet hyper important, c'est que pour nous c'est toujours très important quand des habitants et habitantes contribuent à un projet urbain de leur faire une restitution. Donc c'est toujours très important qu'il y ait une restitution aux habitantes et aux habitants. Et c'est vraiment du cas par cas, mais si je dois prendre un exemple, on se travaille en ce moment à Clermont-Ferrand, donc sur l'aménagement de deux places du centre-ville, qui sont les places de Lille et Salford. Il y a une super équipe de maîtrise d'œuvre avec Michel Devine, le paysagiste, Philippe Prost, l'architecte, Simon Tessou, urbaniste. Et nous, en fait, on a constitué un collectif d'habitants et d'habitantes qui, à toutes les étapes de la maîtrise d'œuvre, va analyser les études de maîtrise d'œuvre pour faire un retour avant même que les élus aient vu les études. Donc là, il y a vraiment, on est très haut sur l'échelle de la participation citoyenne, et il y a un lâcher-prise des élus qui est vraiment très intéressant et qui permet de travailler en profondeur.
Et c'est vraiment écouté, entendu.
C'est vraiment écouté à la fois par les architectes et paysagistes, concepteurs et conceptrices, et par les élus.
Allez. D'accord. Et alors du coup, bon, par exemple, donc je suppose que ces habitants, on parle de Clermont-Ferrand, mais ça pourrait être, nous on est en Île-de-France, donc ça pourrait être, je suppose, dans une ville de banlieue parisienne. Bon, on va dire que c'est genré, c'est des personnes âgées, c'est des mamans ou des papas avec des poussettes. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toutes ces catégories entre guillemets de personnes peuvent avoir un dialogue, un discours commun et faire cohérence par rapport à... Parce que si chacun tire son petit fil, c'est pas terrible, quoi, non?
Bah déjà, il faut les écouter et y aller étape par étape. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce qui se fait habituellement, des grosses réunions de concertation où il y a 150 personnes, globalement, c'est toujours des hommes, souvent des hommes, souvent propriétaires de leur logement, souvent cadres supérieurs ou anciens cadres supérieurs qui parlent. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de nous immerger en profondeur sur le territoire et d'aller directement à la rencontre des habitantes et des habitants. Et donc ça permet aussi de veiller à la représentation de la parole, d'interviewer au moins autant de femmes que d'hommes, d'interviewer des enfants et de faire remonter du matériel. Et en fait, dans le temps, après, ça peut se construire. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille sur le quartier du Londo à Noisy-le-Sec, où on a fait 3 ou 4 jours d'immersion. Donc, c'est un quartier en renouvellement urbain. On a fait beaucoup d'observations. Ces observations ont été traduites dans une stratégie d'aménagement durable et inclusif qui est traduite dans les différents éléments de conception urbaine. Donc, ça a vraiment un impact direct sur le projet. Et une fois qu'on a un peu pris le pouls quelque part du territoire, et ben on va pouvoir animer des ateliers complémentaires sur des thématiques qui ont émergé.
Donc c'est complémentaire à l'ANRU, c'est complémentaire au projet CELOGIREP qui est le bailleur.
Il y a plusieurs bailleurs.
D'accord.
Ouais.
Donc on va dire dans ce quartier, il y a aussi des promoteurs. Enfin c'est il y a aussi de la promotion
surtout des
privée, surtout des bailleurs. Du coup comment se fait le lien justement entre les bailleurs, la ville, vos demandes pour pouvoir modifier telle ou telle partie du projet urbain?
Bah nous, nos commanditaires, c'est la SPL Ensemble pour le compte d'Est Ensemble. Et en fait, concrètement, bah nos préconisations de la stratégie d'aménagement durable et inclusif qu'on a fait avec Tribu, donc Tribu Bureau d'études environnement, qui travaillait plutôt sur le volet environnemental et nous plutôt sur le volet inclusivité. Et très concrètement, nos prescriptions se sont retranscrites dans le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et environnementales.
Alors moi, j'ai toujours été un peu interrogatif sur comment fait-on un urbanisme entre guillemets genré, je dis bien entre guillemets, c'est-à-dire qui permet aux femmes de se sentir libres et protégées sur l'espace public.
Alors, il n'y a pas une recette et c'est une question vaste et complexe. Mais un premier élément, c'est déjà de donner la parole aux femmes et de faire attention, encore une fois, au biais qu'il peut y avoir dans les réunions de co-construction habituelles. C'est oser aussi questionner les formes habituelles urbaines, par exemple la cour de récréation où on a un terrain de foot au milieu et les filles ou les plus petits garçons qui jouent comme ils peuvent autour.
Et sur l'espace public, par exemple.
Il y a des questions d'éclairage, il y a des questions de sentiment de sécurité. Et donc, c'est des questions qu'on va travailler en profondeur. D'abord par du diagnostic, ensuite par des ateliers qui peuvent être en mixité ou en non-mixité choisie. Et ensuite, on va travailler avec les différents acteurs et actrices de la maîtrise d'œuvre, par exemple les concepteurs et conceptrices lumière, pour comprendre où il y a des problématiques. Déjà, nous, on va cartographier, par exemple, les lignes de désir, donc où passent les hommes, où passent les femmes, est-ce qu'il y a des stratégies d'évitement, pourquoi. Et après, on va travailler ça très concrètement avec les habitantes et avec les habitants et avec les concepteurs et les conceptrices lumière.
Juste un exemple, on est à une terrasse de café. Je ne veux pas donner les villes, mais en centre-ville d'une ville, on va dire en deuxième couronne, y a, on va dire, une vingtaine d'hommes sur la terrasse du café. Il n'y a aucune femme dans le café. On passe, on se fait siffler, on se fait embêter. C'est pas l'éclairage public qui va résoudre le problème de la malpolitesse qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on peut influer sur l'urbanisme pour sortir de ça une idée novatrice?
L'urbanisme ne peut pas tout, ça c'est sûr.
Voilà.
Mais en tout cas, nous, ce qu'on observe, et on travaille ces questions assez en profondeur, notamment avec une association qui s'appelle Womanability, avec qui on a monté une formation sur ces sujets d'espace public inclusif. Et en tout cas, on travaille aussi avec Womanability sur Clermont-Ferrand. Et ce qu'on observe, c'est que un point important, c'est la mixité, en fait. S'il y a un café avec des hommes, c'est essayer de trouver d'autres usages. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans notre cas, à Clermont-Ferrand, de nos places, il y avait beaucoup d'hommes en déshérence, qui n'avaient pas forcément de domicile. Et en fait, ça peut susciter des craintes. Et on a fait deux événements de préfiguration. On a ramené des usages qui faisaient venir les familles. Par exemple, on a ramené des jeux dans l'espace public. Et ben, on a vu qu'en fait, dès qu'il y avait une mixité d'usage, les choses fonctionnaient, en fait. Et que le problème, c'est pas forcément telle ou telle catégorie d'usagers, c'est qu'une catégorie d'usagers s'accapare complètement l'espace.
Oui, bien sûr. Ouais. Bon, on a tiré pas mal de fils. Je sais aussi que vous êtes très, très branché sur la formation, sur l'enseignement. Je trouve que c'est formidable de pouvoir essayer justement de travailler sur ces espaces inclusifs. Bon, on essaie de venir vérifier ce qui se passe, je ne sais pas, dans un an, qu'en pensez-vous?
Avec grand plaisir.
Bon, on va trouver un lieu. Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.